Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Une allocation chômage bientôt accordée aux jeunes en Algérie, une annonce du président Abdelmadjid Tebboune. Les précisions dans votre édition de Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le début ce mercredi du 25e congrès national de la centrale syndicale tunisienne, UGTT. Les 620 participants sont appelés à choisir les 15 membres du prochain bureau exécutif de la centrale. Des réactions notamment politiques après que le président tunisien a étendu son influence au pouvoir judiciaire. Kessayed s'est donné le pouvoir de limoger les juges et de leur interdire de faire grève après avoir remplacé le Conseil supérieur de la magistrature. Nous écouterons le président d'Etakatol, l'ancien ministre Khalil Zaouia. Une réunion internationale pour discuter de la présence militaire de la France au Sahel. Elle a lieu ce mercredi soir à l'Elysée avec plusieurs dirigeants africains et européens. Un Palestinien a été tué ce mardi par les forces israéliennes. C'est arrivé lors de heurts en Cisjordanie occupée. Ils protestent contre le manque continu d'électricité. Au Liban, des manifestants ont bloqué l'autoroute Tripoli d'Air Amar ce mercredi matin dans les deux sens de circulation. Une société qui n'aime pas ses vieux ne peut pas créer un environnement bienveillant. Des mots de Francis Carrier, bénévole aux Petits Frères des Pauvres, fondateur de l'association Grey Pride et cofondateur du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Il nous dira de quoi l'enquête qui dénonce de graves dérives dans des EHPAD est le révélateur. Une allocation chômage sera bientôt accordée aux jeunes en Algérie et certaines taxes sur des produits de large consommation seront suspendues. Une annonce du président Abdelmadjid Tebboune dans un pays en proie à une crise économique. Une allocation chômage sous forme de présalaire afin de préserver la dignité des jeunes, selon les mots du chef de l'État dans un interview avec des médias diffusés par les télévisions locales. L'allocation de 13 000 dinars algériens sera accompagnée d'une couverture santé. Le président algérien précise que ces dépenses sont prévus par la loi de finances 2022. Gros plan sur ces annonces avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre avec la presse, a annoncé un certain nombre de mesures destinées surtout aux jeunes chômeurs. Il a estimé que leur nombre est de plus de 600 000 chômeurs, surtout ceux qui sont inscrits au bureau d'embauche, c'est-à-dire l'Agence nationale d'emploi. En plus de ceux qui sont dans un dispositif qui relève du ministère de la Solidarité nationale, qui sont dans le pré-emploi, leur nombre avoisine les 200 000. Donc c'est les primo-demandeurs d'emploi auront donc une allocation chômage de l'ordre de 13 000 dinars algériens à partir de mars 2022. C'est une allocation qui restera donc qui sera toujours versé aux chômeurs jusqu'à ce qu'ils trouvent un poste d'emploi stable, un poste de recrutement, un recrutement stable. La deuxième concerne donc les personnes qui sont dans un dispositif d'insertion qui relève de la solidarité nationale. Ils auront donc une allocation de 11 000 dinars jusqu'à ce qu'ils trouvent un poste d'emploi. Ils auront aussi des contrats à durée indéterminée. Pour les jeunes chômeurs, en plus de l'allocation de 13 000 dinars, l'État s'engage à leur assurer une couverture sanitaire pour eux et éventuellement pour leur famille, pour ceux qui ont des enfants, jusqu'à ce qu'ils trouvent des postes d'emploi. Donc ces mesures sont destinées donc à freiner un peu l'effondrement du pouvoir d'achat, puisque le président Tebboune a reconnu que le pouvoir d'achat souffre en Algérie.
Vous dites les jeunes chômeurs, cela concerne précisément quelle tranche d'âge?
Les tranches d'âge qui vont donc de 16 ans jusqu'à 35 ans, ceux qui sont sortis d'université surtout, les primo-demandeurs d'emploi, donc ça, l'âge ne dépasse pas les 40 ans. Il y aura des précisions techniques sur plan. C'est le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité nationale qui va donc s'en occuper pour élaborer cette liste, parce que c'est la première fois que cela arrive, donc il faut organiser sur le plan technique pour qu'il n'y ait pas d'abus et pour qu'il n'y ait pas de gens qui vont bénéficier d'aide du bénéficiaire, qui vont bénéficier de l'allocation alors qu'ils sont déjà qui ont déjà un poste d'emploi.
Parce que cette allocation, vous l'avez rappelé, qui est une première, représente plus de la moitié du salaire national minimum garanti, qui est aujourd'hui de 20 000 dinars algériens.
Oui, ça, c'était de l'ordre de 18 000 dinars. Et 20 000 dinars, et encore 20 000 dinars pour les syndicats, Les syndicats estiment que c'est pas suffisant parce que le pouvoir d'achat s'est effondré, les prix de produits de première nécessité ont augmenté en Algérie. Ça peut alléger un peu le fardeau sur ceux qui souffrent. Donc le président Tebboune a reconnu que l'économie algérienne a connu une période trop longue de stagnation qui n'a pas aidé à la création de postes d'emploi. Récemment, il y a eu des décisions pour débloquer beaucoup de projets, notamment privés, à l'intérieur du pays, dans une quarantaine de wilayas, pour essayer un peu de booster un peu la création d'emplois et de déblocage de plus de 900 projets industriels, agricoles et dans d'autres secteurs qui ont permis, selon un bilan établi par le médiateur de la République, la création de près de 52 000 postes d'emploi à l'échelle nationale.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Il a débuté ce mercredi le 25e congrès national de la centrale syndicale tunisienne UGTT. C'est à Sfax. Les 620 participants sont appelés à choisir les 15 membres du prochain bureau exécutif de la centrale. Son secrétaire général, Noureddine Taboubi, a mis en garde contre la difficulté des situations économiques et sociales, en plus de la détérioration du pouvoir d'achat des Tunisiens. Un pouvoir personnel est en train de s'imposer, réaction du président d'État Catole en Tunisie, après que le chef de l'État a remplacé le Conseil supérieur de la magistrature qu'il a dissous il y a plus d'une semaine. Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue dimanche dernier à Tunis pour exprimer leurs craintes quant à l'indépendance du système judiciaire. Le président d'État Catole, l'ancien ministre Khalil Zaouia.
Ça confirme les craintes d'une dérive autoritaire et d'une mainmise sur l'appareil judiciaire, sur la justice. Ce sont des décisions unilatérales. C'est un pouvoir personnel qui est en train de s'imposer, et comme on le sait partout, et l'histoire l'a montré, le pouvoir personnel peut se muer en dictature. Et ça commence toujours comme ça, on cède un petit pas, et puis tout le corps est pris. Donc voilà, il y a un mouvement de résistance, surtout de la part de toute la justice, de tous les responsables, l'association des magistrats. Il y a eu une pétition signée par des millions de juristes, dont 5 doyens de la faculté de droit en Tunisie, qui dénoncent cette dérive autoritaire avec une vingtaine de millions de juristes constitutionnalistes. Donc il y a une résistance de la part des gens avisés, on va dire, et d'une partie de la classe politique et associative. Et c'est une dérive qui est inacceptable.
Et quels sont les reproches aujourd'hui faits par l'exécutif tunisien au Conseil supérieur de la magistrature?
D'abord, ce conseil n'a pas 20 ans ou 10 ans d'âge, il a 4 ans, donc c'est une première expérience qui peut être entachée d'erreurs, certainement. Ils n'ont pas su s'organiser, il n'y a pas de règlement intérieur, donc il y a des erreurs. Mais cela ne justifie pas la suppression et surtout la nomination d'un nouveau conseil nommé, où il n'y a pas de membres élus, et cette dérive est inacceptable.
L'annonce de cette dissolution du Conseil supérieur de la magistrature a eu un écho dans le monde entier, de nombreuses réactions internationales, de Washington, également de l'Union européenne. Ces réactions ont-elles un impact sur le président?
Pour le moment, il y a eu un communiqué signé par un membre du G8, c'est-à-dire l'Union européenne et des pays européens, avec le Japon, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, dénonçant cette dérive. Mais est-ce que ça a eu un impact? Certainement que ça a eu un impact. Il y a eu une réunion avec les ambassadeurs pour leur expliquer qu'en fait, on n'allait pas rayer l'existence d'un conseil supérieur de la magistrature, mais qu'on va dissoudre ce conseil pour en nommer un autre. Mais ça n'a pas de sens.
Le président d'État Catole, l'ancien ministre Khalil Zaouia. Un Palestinien a été tué mardi par les forces israéliennes. C'est arrivé lors de heures en Cisjordanie occupée. Les forces israéliennes ont, selon le ministère de la Santé palestinien et des témoins, ouvert le feu sur un homme dans le village de Nabi Saleh, près de Ramallah. Le président français réunit ce mercredi soir un mini-sommet avec plusieurs dirigeants africains et européens. À l'ordre du jour de cette réunion internationale, la présence militaire au Sahel, en particulier au Mali, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le statu quo n'est pas possible dans un contexte très dégradé au Mali, avec la prise de pouvoir par une junte, le refus d'appliquer un calendrier de retour à l'ordre démocratique, a souligné aujourd'hui le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. C'était à l'issue du Conseil des ministres. Plusieurs ONG ont lancé à Paris un nouveau cri d'alarme sur le danger de mort qui menace les enfants français de djihadistes retenus dans le nord-est syrien. Des enfants retenus pour certains depuis 2010 2017. Ces ONG, dont Amnesty International et la Fédération internationale pour les droits humains, exhortent les autorités françaises à rapatrier ces enfants. Ils protestent contre le manque continu d'électricité au Liban. Des manifestants ont bloqué l'autoroute Tripoli d'Air Amar ce mercredi matin dans les deux sens de circulation. Ils se sont rassemblés en face des infrastructures pétrolières de Tripoli. Le courant fourni par Électricité du Liban n'est disponible en moyenne que 2 heures par jour dans les foyers libanais. Comment la société considère les personnes les plus âgées? Le sujet est mis en lumière en France après la publication d'une enquête qui dénonce de graves dérives dans des EHPAD. Nous vous proposons un entretien avec Francis Carrier, bénévole aux Petits Frères des Pauvres, membre du Centre d'éthique clinique de Cochin, fondateur de l'association Grey Pride et cofondateur du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Francis Carrier nous dit de quoi ce scandale présumé est le révélateur.
Je pense que c'est avant tout le révélateur de la façon dont on se préoccupe des vieux dans notre société. Il ne faut pas se fixer sur les EHPAD, c'est tout ce qui se passe avant d'arriver dans un EHPAD qui dysfonctionne. C'est l'image des vieux dans la société qui sont perçus comme des gens que l'on met progressivement sur le côté et qu'on réduit progressivement à des objets de soins à protéger. Donc je pense que c'est bien en amont qu'il faut regarder le problème. Une société qui n'aime pas ses vieux ne peut pas créer un environnement bienveillant. Donc, bien sûr, on peut s'émouvoir ponctuellement de la façon dont des groupes privés à but lucratif se sont engagés dans des voies qui sont maltraitantes, mais c'est toute la société dans sa globalité. Je dirais que vieillir dans notre société est très compliqué. On est tenu, je dirais, d'être jeune, rester jeune, encore jeune. Et la vieillesse est totalement vécue comme une déchéance et quelque chose, un sujet qui n'intéresse pas grand monde, au contraire, qui fait fuir.
Et vous écrivez que la vieillesse est toujours collée à la dépendance, et pour vous, la vieillesse démarre beaucoup plus tôt.
Bien sûr, pour moi, personnellement, je considère que la vieillesse, c'est le changement de contrat social dans lequel on est. On a 3 époques dans notre vie, la jeunesse dans laquelle on apprend, on se forme, on fait des premières expériences, l'âge adulte dans lequel on fonctionne, c'est-à-dire on met en pratique tout ce qu'on a appris, mais le jour de la retraite, le contrat change, puisque c'est la solidarité nationale qui prend le relais et nous n'avons plus besoin de travailler pour pouvoir continuer à vivre. Alors, même si les retraites ne sont pas mirobolantes et que beaucoup de gens sont dans la pauvreté, en tout cas pour tout le monde, c'est un changement de contrat social. Et ce changement, il se traduit par une image totalement négative pour la plupart. Soit les gens choisissent de continuer de faire comme avant, comme si ils ne vieillissaient pas, et les autres, d'autres vont s'effondrer puisque ils n'ont plus la représentation sociale qu'ils avaient, le pouvoir social qu'ils avaient, l'image sociale qu'ils avaient. Et pourtant, la vieillesse, c'est toute une période de notre vie dans laquelle on peut apprendre à fonctionner d'une façon différente. On a une liberté de temps, on a une liberté de ton, on peut s'exprimer, on peut dire ce que l'on veut. On a plus ce droit de réserve par rapport à nos parents qui souvent ont disparu. On a la possibilité, bien sûr, de transmettre notre expérience. On peut faire l'éloge de la lenteur, de la bienveillance, de la tolérance. On peut préparer ce que l'on n'a pas su faire avant, qui nous semble essentiel. Il y a bien des sujets qui sont à valoriser et qui permettraient de faire comprendre que les vieux et que les gens qui appartiennent à cette époque de la vie et à laquelle nous appartiendrons tous un jour ou l'autre, eh bien, ce sont c'est une population qui doit rester citoyenne, qui doit rester partie prenante de la société, qui doit apporter son tribut pour créer du lien social, créer des choses que la société, en termes d'efficacité, en termes de rentabilité, ne sait pas produire. Donc, pourquoi, à tout prix, nier cette époque de notre vie? Pourquoi la qualifier uniquement de termes négatifs? Bien sûr, vieillir, ça nous confronte à notre finitude. Mais la perte d'autonomie, elle n'arrive pas pour tout le monde, elle arrive très tard. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, réfléchir globalement pour pas mettre de côté des forces vives, pour pas mettre de côté des gens qui sont dans une souffrance, pour pas mettre de côté des gens qui peuvent apporter beaucoup à la société.
Vous choisissez d'ailleurs de dire les vieux, un terme parfois considéré hein, comme étant péjoratif, le terme aîné, personne âgée, est souvent usité, alors que les jeunes n'est pas un terme péjoratif, ça aussi, c'est révélateur.
Bien sûr que c'est révélateur, ça. On peut plus prononcer ce mot, et je dirais que au contraire, ce mot qui est devenu totalement péjoratif, qui est devenu, qui porte tous les stigmates de ce que je viens d'expliquer, eh bien, il faut se le réapproprier. Vieillir n'est pas quelque chose qui est honteux. On n'est peut-être pas fier d'être vieux, mais il n'y a aucune raison d'avoir honte. Et donc, réutiliser les mots qui sont stigmatisants, comme pour le monde LGBT à l'époque, lorsque on traitait les homos de PD et de tout un tas de terminologies négatives, eh bien, on s'est réapproprié ces mots-là pour justement les utiliser et lutter pour montrer les discriminations qui sont en cours dans la société. Et le mot vieux est le symbole de cette discrimination.
Francis Carrier, bénévole au Petit Frère des Pauvres, membre du Centre d'éthique clinique de Cochin, fondateur de l'association Grey Pride et cofondateur du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Le gouvernement français a indiqué ce mercredi envisager la fin du port du masque en intérieur pour les adultes et les enfants à la mi-mars, cela ainsi qu'un allègement du pass vaccinal à cette date si la circulation du Covid-19 est très faible. Vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Alexandre Schoen, animateur du groupe thématique numérique au sein de la France Insoumise, membre du Parlement de l'Union Populaire, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.